L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le samedi 7 juillet 2018. Il est 15h au château de Valençay, au cœur de l'Indre, un département rural français du centre de la France. Antoine est en retard. Le jeune homme, qui porte son uniforme réglementaire, autrement dit pantalon noir et chemise noire, attrape les clés qui l'intéressent et sort en trombe de l'accueil du château. Il se dirige vers la boutique, située un peu plus loin, qui est le point de ralliement de sa visite du jour. D'un pas rapide, il renseigne quelques visiteurs qui semblent perdus dans les jardins. Salut Fanny, l'assistante de conservation, qui est en train de dessiner des plans et entre dans le shop avec fracas, au milieu des livres et des mugs, haletant. D'une voix forte, il réunit son groupe autour de lui. Aujourd'hui, ensemble, ils vont découvrir un trésor. Il est 15h, ce 7 juillet 2018, et c'est leur H de mon histoire. Le discours du jeune homme est rodé. À 23 printemps, il a toujours aimé parler en public. Le métier de guide conférencier était devenu pour lui une espèce d'évidence. Depuis quelques semaines, il porte une moustache en pire, bien épaisse, bien recourbée. Il est sans doute le seul gamin en France à la porter de cette manière, mais il s'en fiche. Il dénote, on le regarde. Le pari est réussi. On a tous un ego qui cherche la considération à 20 ans. Et chez lui, ça se remarque aussi dans le port de chaussettes aux couleurs vives et à sa mèche blonde qui descend le long de ses yeux. Le groupe du jour est nombreux. Il adore ça. Des âges différents. Un couple de vieillards se déplaçant difficilement clôture la marche. Certainement une trentaine de personnes. Le jeune guide les compte machinalement en oblitérant les tickets. Julie, en boutique, salue notre guide de la main. Et voilà tout ce petit monde qui se retrouve assez vite en plein soleil. Direction les écuries. Le groupe passe le pédiluve pour chevaux géants et Antoine ne manque pas une occasion d'étaler sa science, et ce, avant même que les premières questions ne fusent. Le premier des arrêts de cette visite très particulière au château de Valençay, unique et inédite, a lieu sur la pelouse. On peut y admirer le château. Il s'étale immense, immaculé. Ses dômes en ardoise fendent le ciel. Les visiteurs, eux, éblouis par le soleil, portent la main à leur front. Ils admirent ce lieu décidément très particulier. C'est alors le moment pour Antoine d'enfoncer le clou, d'introduire enfin l'illustre propriétaire des lieux. Celui qu'on appelait il y a longtemps le diable boiteux, un ministre de Napoléon qui tourna casaque à tellement de reprises que le mot loyauté devait lui donner des boutons. Cet homme s'appelait Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. L'empereur fit de lui son ministre des Relations extérieures, un nom bien pompeux pour dire qu'il était en charge des affaires étrangères. Alors que le groupe se dirige maintenant vers la prochaine étape de sa visite, notre guide leur raconte son origine. Cela remonte à Napoléon, justement. Lorsque le bicorne le plus célèbre de l'histoire envahit l'Espagne, le ministre boiteux a été chargé de recueillir une partie de la famille royale de ce pays. Bah oui, comme à chaque fois, Napoléon a remplacé le pouvoir en place par un de ses frères. Voilà donc le prince héritier d'Espagne et toute sa smala envoyée de force à Valençay. Prisonnier diplomatique, il faut néanmoins leur trouver à s'occuper. Le domaine, bien entendu, immense, offre de belles occasions de chasse, de balade. Certes, le château est immense et les écuries le sont tout autant. Le parc ferait de l'ombre à n'importe quelle demeure impériale, mais tout cela n'est pas suffisant. Les Latins sont de grands amateurs d'art. Alors que faire? Napoléon demande donc à Talleyrand que le domaine puisse accueillir un théâtre. Mais pas n'importe quel. Une salle cosy, très intimiste. On pourra y pleurer n'importe quel visiteur qui y mettra les pieds. Qu'à cela ne tienne, Talleyrand est un homme de défi, bien avant d'être un homme de pouvoir. Chose première, chose due. les Espagnols, à leur arrivée, vont en prendre plein la vue. Antoine a particulièrement bien réussi son teasing cet après-midi. Le groupe est pendu à ses lèvres, ou devrais-je dire, à sa moustache. Le petit couple âgé se rapproche pour mieux entendre. Le jeune guide conduit maintenant son groupe dans une arrière-cour, bien cachée derrière une immense porte en bois. Comme d'habitude, elle se bloque. Et comme d'habitude, Antoine y met un gros coup de pied pour la forcer à s'ouvrir. Ils entrent dans la cour et les visiteurs s'imprègnent de ce lieu. Il doit ensuite entrer le premier dans le théâtre afin d'allumer les lumières. La clé tourne dans la serrure et, comme par magie, la porte s'ouvre d'elle-même. Le voilà dans un petit couloir dont le plafond est à peine de 2 mètres de haut. Instinctivement, il se baisse. Il se sent toujours privilégié à chaque visite en ce lieu. D'autant qu'il passe maintenant dans une zone interdite aux visiteurs. L'ancienne entrée des artistes. Là où sont encore entreposés certains décors aussi vieux que le théâtre qui les abrite. 200 ans. Quelques pas encore et notre jeune guide se retrouve sur la scène du théâtre. Ses pieds font craquer le sol à chaque impulsion de ses chevilles. Dans le noir total, il ne fait pas le fier. Se dirige droit vers le tableau électrique, un peu plus loin. Il enclenche les fusibles et voit sa perspective totalement changée. Vite, vite, il doit aller chercher son groupe. Les visiteurs doivent s'impatienter. Maintenant, le public est assis sur de jolies chaises installées pour l'occasion. La voix de notre guide, qui se déplace lui sur scène, porte bien. L'acoustique ici est parfaite. Derrière lui, des panneaux peints représentent un décor de forêt. Ils sont décalés les uns avec les autres pour donner un effet de perspective qui fonctionne totalement. Les visiteurs qui écoutent l'histoire de ce lieu sont ébahis par ce qu'ils voient. Ce théâtre n'est quasiment jamais ouvert. C'est toujours un privilège de le visiter et d'y guider les visiteurs qui y ont droit. On y ressent et vit une harmonie particulière, celle d'une histoire qui colle au lieu dans lequel elle est racontée, un lieu dans lequel les contes deviennent réalité. Les statues antiques, les peintures, les moulures et les bougies, tout y est. L'endroit est magique et Antoine, comme les autres, se prend à rêver. Il voit les décors qui bougent, croit entendre frapper les 3 coups à côté de lui. Dans les coulisses, il aperçoit les artistes qui courent, se changent, se maquillent. Dans la salle, il ne remarque plus les gens qui l'écoutent, non. Le voilà lui-même acteur d'un vaudeville qui fait sourire. Sur les sièges, devant lui, s'étalent les invités du maître des lieux, en robe pour les dames et en collant pour les hommes, qui le regardent d'un air distrait ou amusé. Certains tous, d'autres agitent des mouchoirs ou leurs mains pour se faire de l'air. Au-dessus, caché dans la pénombre, le balcon. Il accueille les plus célèbres des convives. Antoine croit reconnaître, en plissant les yeux, le prince héritier de la couronne d'Espagne. À côté de lui, sa femme et derrière eux, leurs enfants. Et au milieu, enfin, une silhouette est reconnaissable entre toutes. Les yeux fixés sur la scène, sa cravate blanche en évidence, vêtue d'un habit neuf, tout droit sorti d'une grande maison de couture, un homme ne détache pas son regard de ses décors. Antoine le sent bien. Le maître des lieux, même après 200 ans, est toujours là. L'esprit de Talleyrand plane dans cet endroit qui défie la temporalité et la rationalité. Notre histoire commence bien avant cette chaude journée de visite estivale. Nous sommes le 7 mai 1803, Paris. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est un de ces hommes dont les journées ne semblent jamais vraiment se terminer. Il ne sait pas marcher vite. La faute à un pied beau qu'il tente de cacher de toutes les manières possibles. Cependant, son esprit, lui, fuse. C'est une véritable tempête en constante évolution. Et jamais, jamais il ne se calme, surtout pas aujourd'hui. Le ministre est l'un des favoris de l'homme fort du pays. Bonaparte n'est pas encore Napoléon. Il n'est encore que premier consul. Le titre d'empereur n'arrivera qu'à la fin de l'année prochaine. Mais bon, il a déjà tous les pouvoirs entre les mains, dont celui d'imposer sa volonté à ses collaborateurs. Il est un peu avant midi et Talleyrand sort du château de Malmaison. Il vient de rencontrer Joséphine et en aparté, très vite, comme d'habitude, Napoléon Bonaparte, qui lui pose une seule question. « Avez-vous trouvé un domaine, comme je vous l'ai demandé ?» Talleyrand, à peine a-t-il eu le temps de répondre oui que le magistral chef de guerre est déjà parti. Le ministre regarde par la fenêtre, secoue la tête en guise de désapprobation. Est-ce vraiment une manière de gouverner que de faire les choses toujours très vite ? Eh bien, peut-être. En tous les cas, pour le moment, force est de constater que les choses donnent raison aux Corses. Joséphine le rejoint et elle lui demande quel est donc ce paradis qu'il vient d'acheter. Talleyrand la corrige. C'est pas encore fait. Mais les papiers de vente devraient être signés un peu avant 17 heures. C'est le comte de Lucé, le désargenté préfet des palais qui s'est résolu à lui vendre son domaine de campagne, Valençay. La femme du premier consul hausse les sourcils. Elle ne connaît pas. Talleyrand lui sourit, la regarde en coin, et décide alors de lui en mettre plein la vue. Écoutez un peu. 12 000 hectares de terre répartis sur 23 communes. Une magnifique demeure renaissance, une cour, une avant-cour, 100 pièces, 25 appartements de maîtres, comprenez de plusieurs pièces. Le tout dans un apparat blanc immaculé aux toitures d'ardoise. Beaucoup de potentiel donc, mais également un lieu laissé pour le moins dans son jus depuis un petit moment. Sur le papier, en tous les cas, le domaine claque, exactement comme Bonaparte lui a demandé. Le ministre s'est exécuté, laissant au passage au vendeur un chèque de 1,6 million de francs. Une fortune totalement colossale. À l'évocation de ce chiffre, Joséphine, qui a les poches percées, manque de perdre son diadème. Le ministre ne lui laisse pas le temps de réagir qu'il claudique déjà jusqu'au perron. Au fond de l'allée, sa voiture, tirée par deux magnifiques chevaux noirs, est en approche. Appuyé sur sa canne, l'homme d'État se maintient comme il le peut. Il a mal. Des douleurs insoutenables depuis quelques jours. Et ses foutues chaussures à boucles n'arrangent rien. Entre le confort et la mode, il faut souvent choisir. Il maîtrise l'art des faux-semblants. D'un geste et de mots, il salue la femme la plus importante de France et s'appuie sur l'épaule de son cocher pour monter à bord. Direction Paris. Il a un domaine à acheter. Il le fait pour obéir à Bonaparte, pour la bonne raison qu'il tient à ce portefeuille de ministre des Relations extérieures. Sous le Directoire, le régime précédent, il occupait déjà des fonctions de ce type et, pour être franc, la diplomatie le sert dans ses stratégies et ses coups bas. Talleyrand est déjà aussi craint que respecté. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, c'est une certitude. Plus personne, depuis longtemps, ne se moque plus de sa boiterie et de son déséquilibre. Tout au contraire. Quand sa canne tape la faïence des palais ou le parquet des salons, tout se lève, chuchote, le regarde. Son handicap, sans aucun doute, est devenu une arme. Du genre de celles qui permettent de soulever des montagnes, de se créer une réputation aussi. De sa poche intérieure, il ressort le courrier écrit par le premier consul à son intention concernant l'achat de ce domaine de campagne. « Je veux que vous ayez une belle terre, que vous y receviez brillamment le corps diplomatique, les étrangers marquants. » Voilà qui était clair comme de l'eau de roche. Bon, il s'était bien gardé de dire à Joséphine qu'il n'avait pas toute la somme nécessaire pour réaliser cet achat. Lui aussi est en quelque sorte une poche percée. Mais grâce à une manœuvre habile dont il a le secret, il a convaincu celui qui tient les cordons de la bourse, comprenez Bonaparte, de lui prêter de l'argent, assez pour boucler l'achat d'une vie. Talleyrand, c'est la définition même du self-made man, le genre de gars qui commence évêque pour finir ministre. La boiterie, la douleur, le handicap, la canne qui claque sur le sol finalement... Tout ça n'avait aucune importance quand on avait une tête faite comme la sienne. Sur le chemin chaotique vers la capitale, l'homme d'État pense à la suite. Il va falloir prévoir rapidement une visite sur place. Il va y emmener sa femme, la magnifique Catherine Worley. Ils forment un couple particulièrement scandaleux. Rendez-vous compte, lui, homme d'église, évêque d'Autun, et elle, divorcée et donc remariée à un homme de Dieu. De quoi faire les choux gras de la presse à scandale de Paris. Le scandale, Talleyrand, il aime ça. Il est né pour ça. Choqué, encore et toujours. C'est l'essence même de cet homme dont la rébellion est particulièrement avant-gardiste. Prépare-toi, Valençay. Le diable est en chemin. Pour comprendre la psychologie de ce personnage imposant de l'histoire de France, il faut remonter à ses débuts. Celui qui dut toute sa vie porter des chaussures orthopédiques et toujours rester secret sur son enfance. Deuxième né d'une grande famille, il perd son grand frère jeune et hérite donc, de fait, du droit d'aînesse. Dans les familles nobles de l'époque, l'aîné devient militaire. Le second fils, lui, est dirigé vers les ordres. Mais patatras, rien ne se passe comme prévu. Comment devenir militaire avec un pied beau? C'est impossible. Charles Maurice est donc destitué au profit de son frère, qui lui vole la place sous son nez. Une profonde antipathie naît donc entre Talleyrand et le reste de sa famille à compter de ce moment-là, plus particulièrement envers ses parents. Dans ses mémoires officielles, il note être tombé d'une commode à l'âge de 4 ans chez sa nourrice, comprenez ? Puisque ses parents ne s'occupaient pas de lui. C'est le deuxième sens de lecture à y trouver. Cependant, une partie des historiens réfutent aujourd'hui cette version officielle et vont vers le fait d'une malformation congénitale pour expliquer cette difformité physique qui le suivra toute sa vie. Né en 1754, Talleyrand a donc longtemps connu la monarchie, régime qu'il embrasse avec conviction. Non pas en tant que militaire, du coup, mais bien en tant que religieux. L'homme devient évêque d'Autun, un poste des plus respectés. Il est nommé en 1788. Il se garde bien de dire que c'est son père, sur son lit de mort, qui supplie le roi Louis XVI de lui confier ce poste. Mais c'est accepté. Et voilà notre héros propulsé dans la cour des grands. Mais le calme est de courte durée, puisque le 14 juillet 1789, la Bastille est prise. C'est le début de la Révolution. Jusqu'alors, Talleyrand a toujours été un fervent monarchiste, puisqu'il a même assisté au couronnement du roi Louis XVI. Ouais, mais voilà, il est malin, et il sent le vent qui tourne à vue d'œil. Il décide donc, c'est l'un des premiers, à prendre fait et cause pour les révolutionnaires. Il se rallie au tiers-état et devient député de la Constituante. Il dira lui-même dans ses mémoires que le faire au moment opportun lui a permis d'en tirer un peu de mérite. Et vous allez le voir, ce n'est pas la première de ses trahisons. Il est celui, et là, il ne faut pas manquer de culot, qui propose le 10 octobre 1789 que pour renflouer les caisses de l'État, il soit nécessaire de nationaliser, donc confisquer, les biens du clergé. Je vous le rappelle, il est évêque d'Autun et donc employé par l'Église. L'ensemble des ecclésiastiques se lève contre ce traître qui, lui, va être porté au nu par des révolutionnaires qui n'en demandaient pas tant et qui se saisissent donc de tous les biens de l'Église en France. En 1790, il est nommé pour un temps président de l'Assemblée nationale, rien que ça. Mais dès la chute de la monarchie, en 1792, se fait envoyer à Londres comme émissaire. Bien lui en a pris. Il a anticipé avant les autres l'arrivée de la terreur et échappe donc à l'échafaud une première fois. Il y reste un an, vit sans le sou mais se fait inviter partout, avant d'être la victime de la loi sur les étrangers du roi Georges, ce qui le pousse, pour éviter de rentrer en France, au risque de se faire couper le cou, à partir à Boston et Philadelphie. Il cherche à y faire fortune. Il y amasse un gros pactole avant de revenir en France une fois la terreur terminée. Nous sommes alors en 1795. Il se fait nommer ministre des Relations extérieures, poste qu'il ne quittera plus avant longtemps grâce à l'appui notamment de son ami Germaine de Staël. Dès qu'il met un pied, si vous me permettez le jeu de mots, dans les rouages du pouvoir, il fait fortune sans discernement, réclamant à droite et à gauche d'immenses pots de vin. Stendhal disait de lui qu'il ne manquait pas d'esprit, mais qu'il manquait toujours d'argent. Voilà un bon résumé de la personnalité de ce trublion de la politique. C'est également à cette période qu'il rencontre Bonaparte, et tout de suite, le courant passe entre les deux hommes. Et lorsque, bien des années plus tard, le général est au cœur d'un complot visant à prendre le pouvoir, Talleyrand le soutient, mais couvre juste assez ses arrières pour se détacher de lui au cas où le coup d'État ne fonctionnerait pas. Ne jamais trop se mouiller, c'est aussi une autre de ses devises. Fort heureusement pour son statut, sa fortune et tout ce qui va avec, Bonaparte prend le pouvoir et devient premier consul. Le statut du ministre en sort renforcé, comme vous pouvez l'imaginer. Talleyrand vient donc d'acheter Valençay et on pourrait croire qu'il est au firmament de sa puissance. Eh bien, détrompez-vous. Nous venons simplement d'assister aux premières étapes du décollage. Déjà, l'homme d'État place ses pions. Et cela, pourquoi pas, peut passer par une nouvelle trahison.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H s'intéresse au destin d'un homme à la vie très particulière, marqué par de nombreux succès et aux nombreux retournements de veste. L'homme né d'une famille noble devient évêque d'Autun juste avant la Révolution. Il se montre très attaché à la monarchie, mais dès qu'il peut prendre la poudre d'escampette, va se réfugier en Angleterre et aux États-Unis avant de revenir en France et de devenir ministre grâce à ses contacts. Il fonde un réseau de pots de vin, fait fortune, se lie à Bonaparte qui devient maître du pays. Mais Talleyrand est habitué à mordre la main qui le nourrit et ne va pas faire exception dans le cas présent. Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 décembre 1813, au cœur des vastes pièces du château de Valençay. La nuit est noire, absolument glaciale. Les plaintes du vent sont si violentes qu'elles passent au travers des charnières et que ceux qui sont là et qui font l'histoire ce soir sont terrorisés. Parmi eux, le prince de Bénévent, l'un des nombreux titres de Talleyrand. Dans l'obscurité, le visage éclairé par une bougie et la jambe malade cachée sous une tenture, Talleyrand a déjà pris la parole depuis plusieurs minutes. L'ambiance est particulière. Le vent s'est infiltré partout, refroidit le jupon des dames et crispe les mains des hommes. Dans un des salons du rez-de-chaussée, là où trône son portrait réalisé par le baron Gérard, Talleyrand est en train d'enterrer le régime de Napoléon. Son travail a commencé il y a déjà des années, et si aujourd'hui tout s'écroule, c'est autant la faute de l'hiver russe qu'à son sourire carnassier. Depuis 5 ans maintenant, son vaste domaine sert de cage dorée à la cour d'Espagne en exil. En effet, Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, en est devenu le roi. Le prince Ferdinand, l'héritier de la couronne, a été envoyé ici, loin de ses royaux parents, reclus dans un autre château. Le frère du prince, son oncle et une petite cour sont aussi là. Un petit guéridon se tient là, au milieu des tapis et du parquet, et semble regarder avec dédain l'assemblée qui se tient là. Sur le dessus, un traité, qui rend de manière officielle la couronne d'Espagne à son légitime propriétaire. Pas à son père devenu trop vieux, mais à lui. Le prince Ferdinand, ce soir, va devenir roi. Tout le monde écoute religieusement le prince de Talleyrand qui expose à ses convives son plan. Napoléon est fini. Ce n'est qu'une question de temps avant que sa chute ne soit franche et définitive. Le diable boiteux en a la certitude. Les deux hommes sont brouillés depuis un certain temps. La cause ? Talleyrand a trahi l'empereur. À Tilsit d'abord. Il est allé contre les ordres donnés par Napoléon pour gérer les relations avec la Russie, tout juste vaincue. Napoléon s'est rendu compte de l'entourloupe bien plus tard, en 1809. Lorsqu'il se souvient de cette entrevue, l'ancien ministre fulmine encore. Le 28 janvier 1809, aux Tuileries, devant témoins, Napoléon l'avait relevé de toutes ses fonctions comme un malpropre, le tout en ajoutant une phrase dont lui seul avait le secret. « Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. vous ne croyez pas à Dieu. Vous avez toute votre vie manqué à tous vos devoirs. Vous avez trompé, trahi tout le monde. Tenez, monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. L'homme d'État, injurié devant tout le monde, ne s'était pas démonté. Il avait simplement ajouté à destination de tous les autres « Quel dommage, messieurs, qu'un si grand homme soit si mal élevé !» Mais sa réputation était faite et son cœur criait vengeance. Il l'aurait. D'abord parce que son double jeu avec la Russie avait marché et que la campagne de 1812 fut pour Napoléon une immense catastrophe. Ensuite parce que ce soir, il chassait officiellement les Bonaparte d'Espagne. Comme toujours, Talleyrand a pris quelques coups d'avance. Il prépare ses pions pour les prochains mois. Il ne sait pas encore comment les choses vont tourner, mais la certitude qu'il a, ce soir d'hiver, en voyant le prince héritier d'Espagne devenir le roi Ferdinand VII, c'est qu'il tient le petit Corse entre ses mains et qu'il va se servir de sa canne pour l'écraser dès que l'occasion se présentera. Il jubile. Assis dans ce fauteuil recouvert d'une tapisserie au motif que la lueur de bougie ne peut nous permettre de voir. Ce que l'on voit cependant, et ce que toute la cour du nouveau souverain présent peut voir, c'est ce sourire, carnassier, sans pitié. Et en effet, le moins que l'on puisse dire, c'est que Napoléon n'aurait jamais dû se mettre à dos son ancien ministre. Il va totalement anéantir les dernières ambitions de l'empereur à se maintenir au pouvoir, lui ou son fils. C'est lui qui, en 1815, après Waterloo, et alors que l'option de voir le fils de Napoléon arriver au pouvoir se profile, remet une nouvelle fois Louis XVIII sur le trône. Nouveau régime, nouvelle allégeance. Talleyrand a la rancune tenace. Il est de ces hommes qui refusent de se laisser dicter leur destin. Lorsque Napoléon était sur l'île d'Elbe, lors de son premier exil, son ancien ministre y a envoyé des espions pour tenter de l'empoisonner. Et alors que Louis XVIII devait payer tous les ans à son prédécesseur une sorte de pension, Talleyrand a enjoint le nouveau souverain à ne surtout pas verser au petit Corse le moindre franc. Culotté. Quand on sait que c'est la bourse de Napoléon qui s'est délié pour permettre à son ministre de devenir propriétaire d'un château plus grand et plus beau que ses propres lieux de résidence. C'est typique de ceux qui ne supportent pas de se voir écartés sans l'avoir décidé. Ils préparent en général une contre-attaque portée par le ressentiment. Mais que s'est-il passé ? Napoléon n'a pas supporté l'influence grandissante prise par son ministre, ses magouilles financières pour gagner de l'argent, ainsi que ses petites combines politiques. Il a tenté de le museler, fut persuadé d'avoir réussi. En vain, celui qui part à Sainte-Hélène, c'est Napoléon, pas Talleyrand. Sa disgrâce sur la fin de la période impériale est vite remplacée par un retour au firmament. Lors du congrès de Vienne, alors que les vainqueurs de Napoléon se partagent la carte de l'Europe, chacun cherchant à prendre un petit bout, le sort de la France est indécis. Elle n'est pas conviée à la table des négociations, pas même officieusement. Et certains poussent même pour totalement la réduire à néant. Talleyrand ne peut supporter cette perspective. Il va sauver le pays. C'est lui qui persuade les alliés de la maintenir comme un État souverain à part entière et surtout qui les enjoint à maintenir les frontières du pays comme elles étaient en 1792. C'était loin d'être gagné, mais il manœuvre d'une telle manière qu'on dirait un fakir au milieu d'une fosse à serpents. Sa prestation est magistrale, un véritable chef-d'œuvre de diplomatie. À la sueur de son front, grâce au charme de la duchesse de Dinau, la femme de son neveu qui partage assurément sa couche, il tire la France du brasier à bout de bras. En 1815, après le départ de Napoléon, c'est toujours lui, cette fois en compagnie de Fouché, qui a le sort du pays entre les mains. Il facilite le retour au pouvoir des Bourbons. Le roi Louis XVIII, frère du roi Louis XVI, lui doit une fière chandelle et ne peut pas se passer de son influence. Pourtant, les retrouvailles sont glaciales. Alors qu'ils sont à Compiègne, le roi le fait attendre des heures dans son antichambre, puis il s'exclame à l'intention du boiteux, « Je suis bien aise de vous voir. Nos maisons datent de la même époque. Mes ancêtres ont été les plus habiles. Si les vôtres l'avaient été plus que les miens, vous me diriez aujourd'hui, prenez une chaise, approchez-vous de moi, parlons de nos affaires. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dis, asseyez-vous et causons. Le tout dans un ton aussi glacial que la mort. À la fin de l'entrevue, comme une dernière pique avant le départ, Louis XVIII demande à son nouveau ministre, qu'il vient de nommer, comment a-t-il fait pour voir la fin de tant de régimes sans jamais chuter avec eux ? Il faut dire qu'en effet, la liste est impressionnante. D'un regard, d'un sourire, le prince de Talleyrand lui répond en ces mots. « Mon Dieu, sire, je n'ai vraiment rien fait pour cela. C'est quelque chose d'inexplicable que j'ai en moi et qui porte malheur au gouvernement qui me néglige. » Laissant, comme vous pouvez l'imaginer, le souverain pantois. Avant le retour de Napoléon en 1815, le roi l'avait nommé ministre des Affaires étrangères. Après Waterloo, le voilà président du Conseil des ministres. Rien ne semble arrêter. Cependant, la disgrâce le guette. Le roi Louis XVIII, qu'il avait gardé proche de lui malgré des relations froides, meurt en 1824. Et même s'il est présent au sacre de son successeur au premier rang, Charles X le renvoie sans ménagement dans ses pénates à Valençay. Pas grave. Le diable boiteux va trahir une nouvelle fois.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H est consacrée à un monstre de la politique française. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord est un homme qui eut le temps de voir vivre et mourir de nombreux régimes dans une période où la France en change comme de chemise. Évêque puis révolutionnaire athée, ministre sous la Révolution, Napoléon, Louis XVIII, les têtes couronnées passent, mais lui, il reste. Mais même le diable n'est pas immortel. Il se fait vieux, son influence est moindre, mais ses calculs politiques, eux, sont toujours vifs. Il n'a pas fini de surprendre l'histoire. Nous sommes au printemps de l'année 1837. Le prince boiteux se traîne. Ses jambes ne le portent plus. Il descend avec peine les escaliers d'honneur de son château et au bas, l'attend son fauteuil roulant. La duchesse de Dino est là, ravissante comme toujours. Sa chevelure brune se mélange à une splendide robe verte et or. Il ne manque pas de lui faire un compliment alors qu'on l'installe dans la chaise roulante. On le conduit vers une calèche qui va se diriger vers Paris. Il est retiré depuis longtemps. A même aidé le roi Louis-Philippe à prendre le pouvoir et à renverser son ennemi, Charles X. Mais cette fois, plus rien n'y fait. Ses forces l'abandonnent. Il a pris la décision, la mort dans l'âme, de quitter Valençay pour se rendre dans son hôtel particulier, à Paris. Plus facile, moins encombrant. Ce train de vie va l'aider à adoucir une vieillesse qui le prend au mot. Il faut dire que le prince a déjà 82 ans et toujours un pied beau, qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne s'est pas embelli avec le temps. Pour la dernière fois, il quitte son château et demande au cocher de prendre le chemin le plus long, celui qui traverse la propriété. Après tout, maintenant, il a tout son temps. Le domaine a bien changé depuis 1803. Il a dépensé des sommes folles pour en faire un lieu immanquable de la diplomatie mondiale. Il y a fait venir les meilleurs cuisiniers du monde, le célébrissime Carême en tête. À sa table, on est servi encore à la française. Tant pis si c'est déjà ringard. Le parc, qui n'existait pas, est devenu un magnifique parc à l'anglaise. Les gens l'admirent. Il est tour à tour devenu maire de Valençay, puis conseiller général du département. Il s'est consacré aux plus démunis de ses administrés, a participé à transformer de manière active l'économie locale et a employé ses nombreuses ressources mentales et financières pour rendre la vie des gens du Berry meilleure. Assurément, les larmes qui coulent sur ses joues lorsqu'il passe le long de son petit pavillon de chasse sont des larmes de joie. Sa mission est accomplie. Le temps maintenant est venu pour lui de mourir. Et effectivement, le diable boiteux, malgré toutes ses entourloupes, va finir par mourir. Non sans un dernier tour de magie dont il a le secret. Sur son lit de mort, le voilà qui se retrouve bien embêté. Jour fait le tableau. Évêque d'Autun qui vote la confiscation des biens du clergé, qui se marie, laisse sa femme à Paris pendant qu'il se permet une aventure avec la femme de son neveu. Autant vous dire que notre héros du jour est bien placé pour obtenir du pape une excommunication en règle. Oui, mais voilà, à l'époque, la religion catholique est une religion d'État. Sans les derniers sacrements, pas de funérailles et pas de sépulture. La fosse commune et la honte sur toute la famille. Il faut donc rattraper le coup. Les jours d'avant sa mort, l'homme va obtenir le droit, accordé par le pape, de recevoir les derniers sacrements à la seule condition de signer une lettre de rétractation, au sein de laquelle il exprime ses regrets. Maître du temps comme toujours, il ne va la signer que le jour même de sa mort. Son contenu est savoureux et aucune excuse n'y est clairement mentionnée. Mais mieux encore, alors que le prêtre suit la procédure du rite, Talleyrand, d'un dernier regard de feu, lui lance « N'oubliez pas que je suis évêque. » Quel culot incroyable jusqu'au bout. Le prince de Talleyrand meurt le 17 mai 1838 à 15h50. Il avait 84 ans. Le 22 mai, de grandes funérailles sont organisées et il est emmené ensuite à Valençay, au sein d'une crypte sous la maison de charité qu'il a fondée. Son corps est embaumé à l'égyptienne et jusqu'en 1990, une petite vitre permettait aux visiteurs de voir son visage. Depuis 2004, le sarcophage repose dans la crypte. Il est toujours accessible aujourd'hui. Le château de Valençay, lui, ne meurt pas avec son propriétaire. Bien qu'il n'avait pas d'enfant connu, le roi des Français Louis-Philippe décide de créer le titre de duc de Valençay afin que son neveu puisse continuer l'histoire familiale. Jusqu'au dernier quart du XXe siècle, le château resta entre les mains de la famille avant de devenir une collectivité locale. Il est aujourd'hui ouvert au public et son parc de 52 hectares continue encore de faire de nombreux heureux. Les habitants de la ville peuvent d'ailleurs y accéder gratuitement. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le château a accueilli de nombreuses œuvres du Louvre qui fuyaient les nazis, y compris la célèbre victoire de Samothrace. Le domaine a donc continué de vivre et ses nombreuses collections, même si elles sont parfois dans leur jus, sont tout bonnement extraordinaires. Si un jour vous visitez les mastodontes de la Loire, de Chambord à Chenonceau, n'oubliez pas de vous excentrer un peu et d'aller rendre une petite visite à ce diable boiteux qui secoua ce cocotier du nom de France. Vous y verrez de splendides écuries, un donjon renaissance comme l'Europe en compte peu, un parc absolument splendide. Et si vous avez de la chance, sait-on jamais, un petit théâtre, Premier Empire, niché dans un endroit très secret. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation venant de notre héros du jour, très inspiré par les petites phrases, définition même de l'orateur malin. Talleyrand avait une très haute opinion de lui-même. Il s'exclame un jour en public « Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, ce que j'ai pensé et ce que j'ai voulu. » Assurément, son pari est réussi. Ses mots d'esprit et son génie politique, quoi qu'on en dise, ne pourront jamais mourir. Son esprit non plus. Et certains employés du château, parfois, perçoivent dans les coursives du deuxième étage inoccupé le bruit de sa canne. Tac, tac, tac. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.